19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour, certains sont en train de vivre leur week-end, leur low week-end. Vous avez bien raison les amis, c'est aussi ça la vie. La vie c'est de prendre soin de soi, mais surtout de profiter de la vie, c'est-à-dire de son entourage, de sa famille, etc. Si vous êtes en week-end, bon long week-end, et si vous êtes au boulot, bon courage. Alors au menu, au programme ce soir, jusqu'à 20h, nous sommes ensemble. Eh bien je recevrai tout à l'heure une invitée qui viendra nous parler de son gala. Elle est très impliquée dans les quartiers populaires, mais aussi auprès des plus démunis. On en parlera et on tâchera d'en savoir un peu plus. C'est Samira Bouhoutaïbi qui sera notre invitée. 19h15, j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000 pour débattre avec vous sur les différents sujets qui ont retenu notre attention. Migrants à la frontière polonaise, une crise explosive. Certains disent d'ailleurs que ça les arrange. D'ailleurs, certains même vont très loin, qui disent qu'ils crèvent. Vous vous rendez compte quand même? Et on tâchera de savoir que se passe-t-il véritablement entre les deux pays. Ensuite, après, nous regarderons de près, eh bien, un autre sujet, les présidentielles 2022. Éric Zemmour est en baisse, il est en train de perdre dans les sondages. Mais que se passe-t-il? Tiendra-t-il? C'est la question qu'on va soulever tout à l'heure. Rodéo sauvage! Est-ce un fléau? Est-ce que les policiers sont dépassés par cet événement? Est-ce que c'est hors de contrôle? Nous comprendrons tout cela et nous confronterons nos points de vue avec les débatteurs influenceurs qui seront avec nous tout à l'heure. Rudy Cassi, ensuite Amil Shriyet, mais également aussi à maire adjoint de la Courneuve, Amine Saa. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview.
Et j'avais envie de parler d'un gala. Un gala que, évidemment, une personnalité organise. Un gala de bienfaisance avec à la tête de ce gala des humoristes qui vont venir, évidemment, vous apporter une bonne humeur durant votre soirée, mais pas que. Alors Samira Bouhoutaïbi, bonjour.
Bonjour Adil.
Bonjour. Vous présidez une association qui s'appelle APAC.
C'est bien ça, Adil. L'association pour agir citoyen.
Oui, absolument. Cette association, si j'ai bien compris, ma chère Samira, ma chère présidente, elle est très impliquée auprès des plus démunis. Hein.
C'est ça, on lutte contre la misère dans le monde. Alors quand je dis dans le monde, c'est très prétentieux, mais essentiellement en France, au Maroc, en Algérie et au Sénégal.
En Algérie, au Sénégal et au Maroc. Vous faites quoi concrètement? J'ai vu, par exemple, j'ai un peu parcouru ce que vous faisiez. La PAC, c'est quoi la PAC? La PAC, en gros, elle agit auprès des plus démunis. Quand j'ai voulu vous dire ça, c'est-à-dire qu'on traverse une crise sanitaire sans précédent, est-ce qu'il s'agit d'aller collecter, d'aller faire des collectes alimentaires pour aller les distribuer aux plus démunis? Dites-nous un petit peu, quel est l'objet même de la PAC?
D'accord. Alors, tout d'abord, la PAC, elle a une grosse particularité, c'est qu'elle fonctionne sans subvention d'État depuis 10 ans. Alors, on va fêter nos 10 ans le 27 novembre lors de notre gala.
C'est bientôt son anniversaire.
Voilà, le 27 novembre, on a les 10 ans, on fait un grand gala à Clichy-sous-Bois. Donc, ceux qui veulent venir, bien entendu, vous êtes les bienvenus.
Clichy-sous-Bois, où ça précisément? Dans quel lieu? On va en profiter, on va en parler.
C'est gentil. Donc c'est à l'espace 93, le 27 novembre. L'ouverture de porte se fait à 19h. On peut prendre son billet sur Eloasso.
Ça va être magnifique, ça.
Ouais, on peut prendre son billet sur Eloasso. Et je vous invite, à, si vous voulez avoir des renseignements, à nous appeler au 07 81 85 24 44.
On reviendra sur ce gala de bienfaisance justement. Ma chère présidente Samira Bouhoutaïbi, justement, parlons de ces plus démunis. Les démunis, aujourd'hui, quand on fait le point sur la situation et quand on voit la crise sanitaire qu'on continue de traverser, quel est l'état des lieux aujourd'hui, dans les lieux justement où, que vous parcourez? C'est où précisément? Vous allez essentiellement dans la Seine-Saint-Denis, dans le 92? Où, quel est votre périmètre, Samira Bou?
Alors, on en fait sur Paris, on en fait en Île-de-France et on en fait également à Clichy-sous-Bois. Donc, on fait des maraudes. On a également, on distribue des repas chauds tout au long de l'hiver. Sinon, on a également un accueil au sein de notre local. On a un local à Clichy-sous-Bois. où les gens viennent échanger avec nous. On a beaucoup d'SDF qui viennent nous voir pour avoir un repas chaud, prendre oui. un café, prendre un thé, recharger leur téléphone ou tout simplement échanger avec nous. On a une permanence administrative où on essaie de mettre à jour leurs différents papiers, de les réinsérer entre guillemets dans la société. On est content parce qu'on a réussi. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est un travail de longue haleine. On a réussi à faire sortir un SDF de la rue. Il a vécu pendant 10 ans dans la rue. On l'a aidé à faire ses démarches pour bénéficier de la retraite, avoir un logement. Mmh. Donc maintenant, il est chez lui, il a sa maison, il a sa petite retraite qui tombe tous les mois. Et nous, on continue à lui apporter un panier alimentaire, puisqu'on fait, comme vous l'avez dit, des collectes alimentaires. Et on distribue des paniers alimentaires à hauteur d'une fois par semaine. Et ça, grâce à nos collègues, hein, enfin nos partenaires, qui sont un panier garni, un panier pour tous et le petit relais, qui nous permettent de faire des collectes au sein de Franprix oui. et qui nous également nous livrent des denrées alimentaires, des produits frais, des fruits, des légumes. Et nous, ça nous permet de faire ces distributions-là une fois par mois. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, pendant cette période de crise sanitaire, la misère, elle était beaucoup plus importante et a touché beaucoup plus de monde. On a malheureusement de plus en plus de retraités qui ont du mal à payer leur...
Est-ce que le public a changé, justement, parmi les plus démunis? Est-ce que vous trouvez que ceux qui s'en sortaient plutôt bien, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation fragilisée?
On a de plus en plus de femmes qui sont dans la rue, de plus en plus de femmes SDF. Ah, oui. Quand on a commencé, il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de femmes. Il y avait vraiment une majorité.
Des femmes qui sont divorcées, qui vivent seules?
Alors, elles sont seules dans la rue ou alors elles vivent avec d'autres SDF. C'est des personnes, les SDF, qui sont très pudiques, qui ont du mal à se confier. Ouais. C'est long de
Donc ça, c'est votre constat. Il y a de plus en plus de femmes. Et ces femmes, elles sont quoi? Jeunes? Quel profil elles ont?
On a quelques jeunes, mais ce qui est désolant, c'est qu'on a de plus en plus de femmes retraitées qui ont pas loin, enfin qui ont 60 ans et qui se retrouvent comme ça à la rue, livrées à elles-mêmes et c'est compliqué.
Et ça s'explique comment? Quand vous leur parlez, quand vous échangez avec elles, qu'est-ce qu'elles vous disent?
Eh ben, elles nous racontent un petit peu leur vie, elles nous parlent de tout, elles sont heureuses d'avoir une oreille, c'est surtout ça.
Ouais.
Mais on sent aussi qu'il y a cette crainte de la... cette crainte de la société, de l'administration, elles ont tout le temps peur qu'on fasse partie d'une administration, autre chose comme ça. Donc on reste, voilà, il y a du temps pour créer du lien, il y a du temps parce qu'ils bougent beaucoup, ils changent beaucoup de place. Ils restent rarement au même endroit de peur justement d'avoir des représailles. Et puis des fois, il y en a qui se confient, qui nous racontent un peu leur parcours de vie. Ils avaient un travail, ils ont perdu leur travail et ils ont eu du mal à s'en sortir au fur et à mesure.
C'est terrible. Effectivement, ce que vous êtes en train de dire, c'est terrible. Et en l'espace de 10 ans?
En l'espace de 10 ans, ouais. On faisait ça il y a 10 ans. Il y avait quelques femmes, mais très peu de femmes. Et c'était la plupart du temps des personnes entre 30, 40 ans. Et là, c'est vraiment des personnes qui sont âgées, aussi bien hommes ou femmes, hein, mais de plus en plus de femmes. De plus en plus de femmes. On en a des jeunes aussi. Il y a 10 ans, pour vous donner un exemple, quand on a commencé à faire les maraudes, on demandait pas de protection pour les femmes, parce qu'on n'en avait pas besoin, elles n'étaient pas là. Et là, c'est l'une de nos plus grandes demandes.
Ouais, donc c'est la demande. Comment s'est passé d'ailleurs? Vous continuez à distribuer des paniers alimentaires aujourd'hui auprès des familles justement bénéficiaires?
Oh oui, malheureusement de plus en plus.
De plus en plus. Ah oui, de plus en plus.
Malheureusement, de plus en plus.
Ah oui, de plus en plus.
Ouais, malheureusement, on a tout le temps.
Ça soulève de vraies questions. Hein.
Ah oui, on a de plus en plus de personnes qui viennent. Avant, on faisait une collecte alimentaire par mois et ça c'était suffisant. Maintenant, on en fait quasiment tout le temps des collectes alimentaires. Et je vous dis, grâce à nos partenaires, hein, grâce à un panier garni.
Justement, ces paniers alimentaires, c'est des partenaires qui vous accompagnent et qui, justement, vous soutiennent. C'est des distributions, des supermarchés, des...
C'est des épiceries solidaires, hein, telles que un panier garni et un panier pour tous et le petit relais. Je les cite parce que c'est des gens formidables et qui méritent d'être cités.
Bah oui, ils œuvrent justement.
Ils œuvrent. Ils ont une action civique. Et à chaque fois qu'on les appelle, enfin, ils sont là pour nous donner un coup de main. Et c'est également notre relais avec avec les magasins. C'est grâce à eux, justement, on peut bénéficier des collectes, puisqu'ils nous laissent leurs collectes en nous disant, bon, allez-y, on voit ce que vous faites, on voit que vous redistribuez, on voit que c'est important. Et nous, sans eux, on ne pourrait pas exister. À côté de ça, on a également les magasins Leclerc qui nous soutiennent énormément dans nos événements. Parce que, comme je vous ai dit, on ne bénéficie d'aucune subvention d'État. Donc, on fait nos événements également pour financer nos voyages humanitaires. On part avec des jeunes.
Oui. Vous partez avec des jeunes.
Et on va monter des chantiers là-bas. Et donc, lors de nos événements, on organise des kermesses, des tambolas, des choses comme ça. Et les centres Leclerc de Clichy-sous-Bois nous fournissent vraiment tous les cadeaux pour la tambola.
Dites-moi, Samira Bouhout, Taïebi, Madame la Présidente, justement, quand vous faites le bilan de vos actions durant ces 10 années, puisque vous allez fêter 10 ans, quelle est la première chose qui vous frappe, Madame la Présidente ?
Alors, moi, je suis d'un tempérament très, très optimiste. Et donc, moi, ce que je veux garder de ces 10 ans de bilan, c'est le fait qu'on est sorti des gens de la rue.
Oui.
Qu'on ait recréé du lien avec ces gens-là et que, de nouveau, ces personnes-là font confiance à la société, puisque, du coup, ils ont compris l'importance de faire les démarches et puis le fait qu'ils viennent vers nous, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils échangent avec nous. Le fait, pareil, d'avoir réconcilié des jeunes avec l'école également, puisqu'on lutte également contre l'abandon scolaire en France. Donc, j'essaie de garder ce constat positif, mais sans oublier, malheureusement, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont confrontées à la misère. Et c'est pas uniquement des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui travaillent, mais une fois qu'ils ont payé leur loyer, ils n'ont plus rien pour manger.
Oui.
Et ça, c'est important de le dire. Et que personne n'est à l'abri de cette misère et qui est là. Enfin, moi, je dis, elle est latente, quoi. Elle est au-dessus de nos têtes. Le moindre événement peut nous faire basculer.
Alors, justement, Samira Bouhout, Taïebi, vous avez décidé de marquer ce 10e anniversaire de l'APAC, votre association. Alors, vous l'avez voulu cette année, justement, ce 27 novembre, sous la forme d'un gala de bienfaisance. Pour quelle raison ?
Alors, c'est pas uniquement cette année. Ça fait 10 ans. Tous les ans, on fait ce gala-là, justement, pour récolter.
Mais là, c'est 10 ans, c'est le 10e anniversaire.
C'est le 10e anniversaire. Et pour nous, c'est important parce que quand on s'est lancé dans cette aventure et qu'on a dit on va monter cette association, mais comme ça, l'association s'appelle Association pour Agir Citoyen, on va pas demander de subvention, on va prouver à tout le monde et en particulier à l'État qu'on peut s'en sortir grâce à la solidarité des gens et à la bienveillance des gens.
Oui,
et
sincèrement,
si aujourd'hui on fête les 10 ans, c'est pas grâce à nous. Nous, on est des petites mains ouvrières, mais c'est grâce à toutes les personnes qui nous ont soutenues, toutes les personnes qui nous font des dons, tous les bénévoles qui sont là en permanence pour les collègues, qui sont là pour tenir les événements, et grâce à nos partenaires. Et vraiment, j'en profite aujourd'hui sur les ondes de Beurre FM pour les remercier tous infiniment. Et tous ceux qui ont cru en nous, parce que quand on a créé cette association, il y a beaucoup de personnes, même des personnes importantes, qui nous ont dit, mais c'est stupide de ne pas demander de subvention, vous n'y arriverez jamais. Même avec les subventions, certaines associations ne s'en sortent pas. Comment vous pouvez-vous imaginer vous en sortir ?
Dites-moi, Samira Bouhout, Taïebi, justement, j'ai vu que ce gala de bienfaisance est marqué par des spectacles, par de l'humour aussi. Quelle est la tonalité de cette soirée concernant le 10e anniversaire ? Ça donne envie d'y aller, quand je vois, évidemment, votre promo.
Eh bien, écoutez, moi, on serait ravis et honorés que vous puissiez venir.
Merci, en tout cas.
Vraiment. Vous êtes le bienvenu, Adil, vraiment.
Mais écoutez, merci.
Avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
C'est gentil, merci infiniment.
On a décidé de faire un gala sur le thème de l'Orient. Donc, ce serait une soirée orientale avec un repas typiquement oriental, de la shorba, un tagine poulet aux olives, des desserts. Bien sûr, il y aura le gâteau d'anniversaire. On aura l'orchestre Najma qui sera avec nous tout au long de la soirée. Et je tiens vraiment à les remercier parce que ça fait 10 ans qui viennent à chaque gala bénévolement pour animer la soirée parce qu'ils croient en notre cause.
Oui.
Il y aura un DJ, c'est DJ Farid, pareil, qui est notre partenaire depuis 10 ans. Il y aura les Diamants de l'Orient avec Nanou qui sera là pour un défilé. Nounours nous fait l'honneur de venir animer cette soirée.
Oh, Nounours, déjà, Nounours de chez nous, hein.
Bah, Nounours dire. De chez vous.
Nounours de Nounours Beurre qui est dans la matinale le vendredi matin.
C'est ça.
C'est ça, Nounours, le grand Nounours.
De la matinale, qui sera là et qui est déjà venu. nous a déjà fait l'honneur de venir il y a 2 ans, justement.
L'humoriste Nounour, absolument. Nounour.
Voilà, qui a cru à notre cause et puis qui revient. Donc, on est ravis.
Donc, si c'est lui qui présente la soirée, j'ai aucun souci à me faire.
C'est lui qui présente
la soirée. Il va vous la retourner.
Ben, je le sais.
Il va vous mettre une ambiance d'enfer.
Ouais. On l'a vu à l'œuvre. Et puis, il y aura également la troupe de danse qui l'a dit. Et puis, plein de petites surprises encore. Bon. Mais on révèle pas tout. Et une grande tombola.
Donc,
et,
ça se passe.
Et ce gala-là donc, il nous permet de financer nos actions en France, mais également, comme je vous l'ai dit, au Sénégal, parce qu'au Sénégal, on suit des petits talibés. Donc, pendant le mois du Ramadan, on les nourrit tout le mois du Ramadan avec un repas chaud, ces petits talibés-là. On leur envoie des vêtements de façon régulière, justement, pour qu'ils puissent avoir des vêtements chauds et de quoi manger.
Oui, parce que tout ça, effectivement, ça va pour une belle cause, hein, cette soirée de gala.
Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, pareil au Maroc, on lutte contre l'abandon scolaire au Maroc. Et donc, on a œuvré pour un internat de jeunes filles à Afir, un internat à Jarada, pour que les enfants puissent rester à l'école le plus longtemps possible. Et donc là, on a déjà nos premiers universitaires et on est extrêmement fiers. Alors que, avant nos actions, les enfants et particulièrement les petites filles arrêtaient l'école à 9 ans, dans des coins
reculés
du Maroc.
Belle cause.
Et puis, pareil, on fait également une grande maraude. On participe à une grande maraude qui est la maraude enchantée qui a vu sur Paris pour Noël.
Oui.
Et en même temps, on distribue des paniers spéciaux Ramadan en France, au Maroc, en Algérie, au Sénégal. On fait en sorte aussi que les familles puissent passer un Aïd correct et un Noël correct.
Et bien tout ça, ça donne envie, ça se passe le samedi 27 novembre, le 10e anniversaire à ne pas manquer. J'invite vraiment tous nos auditeurs à y aller, ils peuvent vous appeler au 07 81 85 24 44, 81 85 24 44, c'est à l'espace 93, place de l'Orangerie à Clichy-sous-Bois. Bel événement à ne pas manquer, hein. Je dois dire.
Merci beaucoup, Adil. Oui, vraiment, ce sera le feu pour les 10 ans.
Bon, bah écoutez, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses et surtout que cette soirée soit marquée, évidemment, par de belles choses. Voilà, merci. En tout cas, Samira Abou Taïbi, la présidente de APAC, merci d'avoir été avec nous dans Les Informés. Et au plaisir de vous retrouver. Je tâcherai, évidemment, d'honorer votre... Je suis sollicité, mais je tâcherai d'honorer. On verra bien. Merci à vous.
On vous attend alors,
Adil. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. On verra bien. Voilà. Merci. Merci à vous. 19h17. On marque la pause et on se retrouve avec nos débatteurs. Ils sont là, ils sont présents. Rudy Kazi. Et puis tout simplement, Amine Sahal, le maire adjoint de la Couronne. Justement, il y a pas mal de choses sur lesquelles on va s'arrêter. Allez, à tout de suite, ne bougez pas.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM. 19h-20h. Les Informés avec Adil Farkan.
Les Informés, 19h25, nous sommes ensemble justement jusqu'à 20h. Le face-à-face, c'est parti.
Les Informés, le face-à-face.
Rudy, le retour. Rudy Kassi, bonjour.
Bonjour Adil.
Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous êtes, vous mangez et tout? Bon appétit, mon cher ami. C'est bien.
L'intérêt de la radio, c'est qu'on ne se voit pas.
On vous a entendu faire comme ça.
Vous avez cassé toute la splendeur
mais
du
non, c'est bien,
que j'essaie de
mais
m'inventer.
On est vendredi soir, convivialité,
voilà,
on est entre allez. Nous. Il n'y a aucun problème. Vous venez d'être nommé là, il y a quelques jours.
Oui.
Racontez-nous tout, dites-nous tout.
Oui, tout à fait, enfin, au sein de notre collectif d'élus.
Absolument.
Voilà, l'association des élus de France.
Des élus de France.
Je suis désormais délégué général. De notre belle association.
Bravo, monsieur le délégué général.
À la réconciliation nationale.
C'est bien, bravo.
Merci.
Et vous êtes élu aussi.
C'est ça, à Saint-Germain-l'Herpage, en conseil.
Exactement. Un autre élu aussi, c'est Amine Saha. Bonjour.
Bonjour, Adil Farkan.
Vous êtes maire adjoint sur la ville de la Courneuve.
Tout à fait.
Ça va, ça se passe bien?
Très bien.
Très bien. Approchez le micro, n'hésitez pas, soyez
très,
pas.
Très bien. Très bien.
Ahmed Friad, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Très très bien.
Ça va la politique, la géopolitique?
Moi j'ai pas de titre
là.
Ah
si, vous êtes éditorialiste, géopoliticien, vous êtes aussi dans la cybersécurité.
C'est ça, ouais, j'ai fait tout. Et bientôt peut-être présentateur.
Oui.
Avec vous, non?
On va vous mettre à ma place.
Non, jamais, Adil est indétrônable.
Vous savez, j'ai un proverbe qui dit « Nul n'est indispensable ».
Ah, ça c'est pas mal.
Tout le monde est interchangeable.
Tout le monde est interchangeable, absolument. Allez messieurs, tout de suite, ce premier sujet qui a retenu notre attention, c'est les migrants. Alors les migrants à la frontière polonaise, là franchement, c'est une crise qui nous dépasse tous. Parce que très honnêtement, quand j'ai vu des vidéos passer, notamment des acteurs politiques, je ne citerai pas de nom, qui disent « Oui, mais qui souffre ? On les laisse, c'est pas grave. Que se passe-t-il, messieurs, entre la frontière que se passe-t-il ? D'abord, j'aimerais qu'on dise à nos auditeurs, précisément, Rudy Cassis.
Mais c'est parce qu'il y a une crise politique, en fait,
oui.
entre la Pologne et la Biélorussie. Et c'est ce qui cristallise toutes les tensions autour de cette affaire des migrants.
Et l'Europe accuse.
Et que l'Europe accuse. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe à côté donc de cette crise politique et géopolitique qui, du coup, se retrouve intimement liée à, on va dire, la domination sectorielle de la Biélorussie, mais derrière aussi de la Russie.
Ouais.
Voilà. Et qu'on passe à côté de ça parce que effectivement, on serait uniquement sollicité par nos émotions au regard de ce qui se passe. Alors effectivement, je suis pas en train
sauf que là, la crise des migrants, j'ai l'impression que la situation, elle est explosive. Elle est explosive, les amis.
Voilà, mais en fait, c'est des populations qui sont tenues en otage par une crise politique, géopolitique. et du coup, en fait, on n'est plus en train de s'occuper de ces personnes-là.
Donc, tactique inacceptable.
Tactique inacceptable, évidemment. Et surtout, les moyens déplorables de l'Union européenne pour faire face à cette crise qui s'occupe plus de la politique que de l'humain.
Est-ce qu'on peut dire que l'Europe gère mal cette situation ?
Je pense qu'ils sont surtout pris au dépourvu. Les choses se passent sur leurs frontières. Et quelles frontières ? On parle de la frontière biélorusse pour ne pas parler de la frontière russe.
Oui.
On sait les tensions qu'il y a entre la Russie et l'Europe. Ils sont un peu démunis dans cette affaire.
On parle de 4000 migrants.
C'est ça.
C'est énorme.
Il n'y a pas de tension entre l'Europe et la Russie. Entre certains pays, la Russie a des bonnes relations avec l'Europe.
Alors justement, prenez le micro, allez-y.
Oui. Si l'Union européenne existait, c'est un autre débat.
Oui. Non, c'est pas notre débat.
La Russie, les relations entre la Russie et l'Union européenne, on n'a pas le temps ici de faire un colloque sur les relations entre la Russie et l'Union européenne. Et effectivement, les partenariats multiples, multilatérales que la Russie aujourd'hui fait, en Europe notamment avec l'Allemagne, le Danemark, la Suède, etc.
Non, mais il ne s'agit pas de ça. Par exemple, quand il y a des tensions
avec la Chine. Quand on utilise l'expression...
Arrêtez, il n'y a pas de tension avec la Chine, puisque l'Europe
c'est certains pays, et c'est justement la faiblesse de l'Union européenne. C'est pour ça que
je voulais juste nuancer, c'est plus au niveau du...
Voilà, je voulais nuancer.
On va reprendre.
C'est un peu les chercheurs, etc.
Ils sont partis. Ça y est, ils sont lâchés.
C'est plus au niveau de la gestion de l'espace, en fait.
C'est ça. La situation qui est déjà explosive.
D'accord, qui est explosive, effectivement. D'abord, c'est 3000 migrants, je sais 4 000, pas.
4000
ou 3000. Bon, les chiffres disent certains disent 3000. Les Biélorusses disent 3000. L'Union européenne disent 4000. Bon,
principalement originaire du Moyen-Orient.
Effectivement. Principalement originaire de la Syrie, effectivement, d'Afghanistan. Certains disent du Liban aussi. Bon. On ne sait pas exact. Certains disent aussi qu'il y a mis des Biélorusses dedans. Ce que je voudrais dire d'abord, ce mur qui a financé les barbelés a été financé par le Danemark. Donc la France, effectivement, aujourd'hui donne des leçons, etc. Mais elle n'a pas financé ces fils de barbelés vis-à-vis de la Pologne. Donc qu'est-ce qu'attend l'Allemagne et la France et l'Italie, les trois premières puissances économiques de l'Union européenne ? Ce qu'on peut noter d'abord, c'est que ce soit un pays nordique, la Danemark, qui finance ce mur. Première des éléments. Deuxième des choses, concernant le financement, on a entendu aujourd'hui dans tous les médias, je ne vais pas ici faire de la pub à des médias, que des pays qui sont preneurs de migrants, des pays limitrophes, Afghanistan, Pakistan, parce que vous savez, vous savez qu'il faut faire la distinction entre des réfugiés et des migrants.
Oui.
Les migrants, le premier pays qui reçoit des migrants dans le monde, c'est les États-Unis. Après, vous avez dans le classement de tête comme ça l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, le Pakistan. Il y a un seul pays européen qui est l'Allemagne, qui reçoit des migrants.
Parce
qu'il faut connaître les chiffres, de l'OCDE.
Absolument. L'Allemagne. D'ailleurs, les migrants veulent aller en Allemagne.
Voilà.
C'est ce qu'ils disent d'ailleurs.
Parce qu'ils savent que c'est là qu'ils seront.
Donc, il faut bien distinguer les choses entre migrants et réfugiés, mais je ne veux pas revenir parce qu'on n'a pas le temps. Je vais faire très rapide. Donc, ça, c'est la première des choses. Sur la question du financement, on entend dans les médias, l'Union européenne finance, c'est inadmissible la Biélorussie. Souvenez-vous, on avait entendu la même chose avec le Maroc. Je rappelle que, par exemple, si je prends le cas du Maroc ou de la Biélorussie, les États qui sont limitrophes et qui eux-mêmes reçoivent, ou la Turquie, les migrants, financent 90% des migrants et finance aussi les frontières. L'Union européenne finance juste entre 230 millions, 250 millions. Elle ne finance pas à 100%. Donc les éditorialistes qui sont sur les plateaux télévisés, qui connaissent pas leurs chiffres, qui racontent du blabla, doivent réviser leurs chiffres. Ça, c'était une parenthèse. Les pays qui sont le Maroc, qui sont des pays comme la Biélorussie ou d'autres pays, n'ont pas vocation à protéger les frontières des pays européens.
Oui.
Oui ou non ? On est d'accord.
On est d'accord.
Ils ont vocation à protéger leurs frontières à eux. Donc je crois que dans ce débat-là, il faut vraiment aussi aller dans la profondeur et détailler les choses réellement. Mais on reviendra après sur...
Non mais on va revenir, attendez, je voudrais juste entendre le point de vue du maire adjoint de la Courneuve.
Peindre le tableau.
Aminsa. Alors,
moi je retire rien.
Vous avez raison de peindre le tableau, il n'y a pas de problème.
Je ne retire rien.
Faut-il encore, évidemment, lui donner du sens à ce tableau ?
Je ne retire rien de ce qui vient d'être dit à l'instant. La réalité, c'est ce que vous disiez, c'est que le problème, c'est que l'Europe aujourd'hui, l'Europe politique n'existe pas. Voilà, il est là le problème. C'est qu'on ne s'est pas doté des moyens d'une politique en termes de migrants, etc. Par ailleurs, notamment les frontières de l'Europe aujourd'hui, c'est... Comment vous dire ? Voilà. Et les pays comme le Maroc ou la Biélorussie n'ont pas vocation à protéger les frontières européennes. Donc c'est l'Europe qui doit fois se doter d'une vraie politique en matière d'accueil. Et puis, j'ai envie de dire quand même, au-delà de ça, il y a quand même des gens qui souffrent. Donc, loin de moi l'idée de faire dans l'émotion.
C'est ça, c'est surtout ça.
Voilà, il faut quand même qu'on se pose la question à un instant. Et puis,
parce qu'il y a des femmes et des enfants, on oublie de le dire.
Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants.
Et qui souffrent.
Il y a des vies qui sont
brisées. Il y a des nourrissons. J'ai vu des nourrissons dans les images. Beaucoup de nourrissons.
On l'a vu précédemment.
Mais oui, mais attendez, ces images, il faut en parler. C'est pas une question d'être démolition.
On l'a vu précédemment.
À un moment, il y a une réalité aussi.
Et puis, dans les années qui viennent, on va connaître la grande crise que le monde va connaître, c'est avec des déplacements de population.
Et ça avait été annoncé il y a quelques années, souvenez-vous les amis.
Et des déplacements de population bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui, et il va falloir qu'on s'y prépare. Et l'Europe ne sera pas cette terre d'asile complètement fermée qui ne pourra pas...
L'Europe va traverser de très importantes tensions. Il est 19h34 avec beaucoup de retard, le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Et je reviens vers vous justement pour continuer de débattre concernant les sujets qui ont retenu notre attention. Michel Taube, bonjour.
Bonjour Adil, Farkan, et bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
Éditorialiste sur les différents plateaux de télévision, mais également aussi le président fondateur d'Opinion Internationale que j'invite nos auditeurs à aller découvrir. Ça se passe sur le média en ligne, Opinion Internationale. Michel Taube, comme tous les vendredis, vous avez décidé de consacrer à votre billet d'humeur aujourd'hui, carte blanche, à la conférence libyenne donc. On vous écoute.
Tout à fait. En effet, Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui toute la journée dans Paris une conférence internationale pour soutenir le processus préparatoire aux élections présidentielles et législatives qui doivent avoir lieu en Libye le 24 décembre pour la présidentielle. C'est un rendez-vous très important que la France a organisé. Étaient présents de très nombreux chefs d'État d'Afrique, d'Europe. Il y avait Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, Angela Merkel. Enfin, vraiment, c'était du très lourd, comme on dit, pour essayer de soutenir les efforts de stabilisation de la Libye. Et en fait, c'est très, très important. C'est très, très important parce que ce soit sur le... On sait que la France, on doit beaucoup, entre guillemets, à la France, la chute du colonel Kadhafi, c'était il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, et depuis 10 ans, la Libye ne connaît que anarchie, conflit entre différentes forces libyennes, le maréchal Haftar à Benghazi à l'est, et d'autres protagonistes du conflit libyen, et ça nous impacte, nous, Européens et Français, directement, ne serait-ce que sur la question migratoire, parce que de très nombreux candidats à l'admission sur le sol européen passe par la Libye. Et on sait qu'en Libye, il y a de très nombreuses violations des droits de l'homme, qu'il y a beaucoup de réfugiés africains qui perdent la vie en prenant des bateaux pour aller de la Libye vers l'Europe. Enfin, voilà une situation extrêmement compliquée. Et pour essayer de sortir de cette anarchie qui mine véritablement ce pays, l'espoir est né d'élections à peu près transparentes. Et donc, peut-être, on peut espérer, en tout cas on n'en a jamais été aussi proche, avoir le 24 décembre prochain une élection présidentielle à peu près correcte, avec des candidats qui vont s'affronter, on espère, démocratiquement. Et toute la communauté internationale a été réunie à Paris aujourd'hui, elle avait été aussi à Rome, à Berlin, ces derniers mois, pour d'une part menacer tous ceux qui tenteraient d'entraver, et là je cite la déclaration finale de la conférence, tous ceux qui aimeraient entraver, remettre en cause, manipuler les élections du 24 décembre, de poursuites et de représailles de la communauté internationale. Donc il faut espérer mais ça n'est pas gagné. On aura enfin un président élu à la fin du mois de, à la fin de décembre en Libye.
Oui, Adil. Justement, je m'apprête à vous poser la question à la seule condition qu'effectivement cette conférence internationale qui va être provoquée, qui risque de sauver le processus politique, mais surtout si on parvient à réunir tous les acteurs politiques libyens, justement. C'est ce que réclamaient certains, je ne vais pas citer leurs noms, mais évidemment, ils sont connus.
Bien sûr. Alors,
Saïf al-Islam, par exemple, je n'osais pas le dire.
Qui ça, vous dites ?
Saïf al-Islam.
Absolument, mais si vous voulez, l'enjeu principal en Libye, comme dans beaucoup d'autres pays du monde arabe, d'Afrique, du Moyen-Orient, c'est la stabilité. Mmh. Et en fait, on vit en Libye, les Libyens vivent un cauchemar depuis 10 ans. Et en fait, j'en ai écrit un édito ce matin dans mon journal, on est dans un paradoxe. C'est que beaucoup de Libyens regrettent les années Kadhafi, alors que c'était un dictateur. Mais au moins, à l'époque, il y avait stabilité et prospérité.
Alors,
on pourrait dire la même chose de la Tunisie, par exemple. Toutes choses égales par ailleurs. En Tunisien, combien d'amis tunisiens m'ont dit « Ah, on regrette les années Ben Ali », alors que Ben Ali était un dictateur. Mais au moins, à l'époque, il y avait une certaine stabilité.
Alors,
et donc, on est dans un paradoxe où, en fait, l'élection présidentielle, d'ailleurs, il est fort probable que le fils Kadhafi...
C'est ce que j'avais dit, moi, il y a quelques années, quand on m'avait posé la question. J'avais dit que Saïf al-Islam Kadhafi pouvait se retrouver à la tête, donc, du pays. Et ils avaient l'air dubitatifs. Qu'est-ce que vous dites, vous, justement, dans votre... dans l'opinion internationale? Vous soulevez la question, en tout cas. Vous dites qu'il est le favori, vous, hein.
Alors, moi, je dis qu'effectivement, à mon avis, je le pense, d'après mes sources, d'après
les
analyses que je peux faire, je pense qu'effectivement, paradoxalement, le nom même de Kadhafi résonne pour beaucoup de Libyens comme étant les années de la stabilité. Et donc, comme le fils lui-même, en tous les cas, était parmi les plus ouverts, alors il faut être lucide, c'était pas non plus un très grand démocrate, mais il était plus moderne, il était un peu plus libéral que son père, et donc il pourrait tenter de faire une synthèse, et je pense qu'en Libye, s'il se présente, il a ses chances, et il a effectivement ses chances. Et ce serait quand même un sacré signe à l'histoire d'avoir un Kadhafi réélu président de la République, alors que c'est son père qui a été démis.
C'est ça.
Voilà.
Je peux vous garantir, je me suis rendu en Libye, je peux vous garantir, Michel Taube, que c'est une véritable... il est très plébiscité, Saïf al-Islam Kadhafi. Hein.
Mais c'est ce dont je me suis rendu compte et que je me suis permis... Alors, je vous cacherai pas que depuis ce matin, j'ai eu plein de critiques sur cet édito, mais je maintiens ce que j'ai dit. Je maintiens ce que j'ai dit. La réalité, je pense que cet homme, s'il se présente, il a ses chances. Alors après, on verra. Est-ce que l'élection aura lieu? C'est pas gagné, parce que beaucoup de protagonistes, notamment des puissances régionales et mondiales, ont intérêt à ce que les élections n'aient pas lieu. Donc là, c'est un enjeu énorme. La France s'est beaucoup mouillée. Emmanuel Macron s'est beaucoup mouillé. L'Italie, l'Allemagne, Angela Merkel.
Donc, la Russie.
Très, très gros enjeux. Il y a des enjeux pétroliers parce qu'il y a une manne. On est dans une crise mondiale énergétique. Vous voyez le brassard actuellement entre l'Algérie et le Maroc sur le gazoduc. Eh ben, il y a en Libye des gisements énormes de gaz, de pétrole, etc. Donc, les enjeux sont énormes. Ce qui se passe là-bas, ça nous concerne, vous et moi et les auditeurs de Beurre FM, directement sur le plan économique et sur le plan
très juste.
Migratoire. Donc, vraiment, ce qui se passe là, c'est très important.
Merci.
Et pour souvent critiquer le président de la République française, je salue cette conférence qui a réuni beaucoup de protagonistes et on espère que ça va peser pour qu'il y ait une élection à peu près transparente dans un mois.
C'est dans un mois. Exactement. Eh bien, merci. Merci, mon cher Michel Taube, le président fondateur d'Opinion Internationale, mais également aussi éditorialiste. Merci infiniment pour ce billet d'humeur.
Merci, bonne soirée aux auditeurs.
Je vous souhaite un très bon week-end, à vendredi prochain.
À vendredi, au revoir.
19h41, sans tarder la pub, et on se retrouve pour la dernière ligne droite avec nos trois débatteurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
45 avec Rudy Cassie, avec Amine Assa, avec Camille Triette, c'est parti.
Les informés Le face-à-face.
Deuxième sujet qui a retenu notre attention, présidentielle 2022. Eh oui, ça devait arriver. Éric Zemmour est en baisse selon les sondages. Alors les sondages, Éric Zemmour, moi je pose la question, il est en baisse, il est en net recul, il a perdu quand même 2 points en peu de temps. Est-ce que finalement, sera candidat, il sera pas candidat? Est-ce que c'est simplement un effet de mode? Ou est-ce que Éric Zemmour a souhaité tout simplement installer le débat et se retirer et laisser faire ceux qui sont ceux qui ont acté leur candidature? Aminsa.
Non, alors, je ne crois pas qu'il va.
Où tiendra-t-il?
Qu'il va s'en tenir là. Bien au contraire, je pense qu'il a. Alors peut-être que il s'essouffle un petit peu dans les sondages. C'est une réalité, mais c'est aussi dû au fait de. À ce jour, il propose rien. Mmh. Et puis bon, il va tenter de relancer, à mon avis, sa candidature en annonçant officiellement qu'il est candidat. Pour l'instant, moi je reste.
Pour moi, il n'y a aucune
moi, je me réjouis du fait qu'il baisse dans les sondages. Mais ouais. Ça, c'est un avis personnel.
Il aurait déjà dû.
Alors, radical, c'est justement. Alors,
il avait déjà prévu de.
Il avait déjà prévu, c'est vrai, c'est
un moment. Il ne l'a pas fait. Oui. Parce qu'en fait, je pense qu'il s'est un peu laissé griser par le plaisir de se retrouver un peu en première place, non seulement dans les sondages, enfin deuxième, mais surtout en fait d'être invité un peu sur tous les plateaux et de dicter un petit peu le rythme en fait de la campagne. Oui. Sauf qu'effectivement, comme en fait il fait une campagne à la Trump, c'est-à-dire avec des mots un petit peu à l'emporte-pièce qui vont susciter l'émoi de la population, soit dans le bon sens du terme, enfin pas dans le bon sens, mais plutôt soit de façon à pouvoir le soutenir, ou bien de façon à pouvoir le critiquer. Ouais. À un moment donné, ça s'essouffle parce que aux États-Unis, par exemple, ce qui était important pour les Américains, c'était de savoir s'ils allaient pouvoir mettre du beurre dans les épinards. En France, il y a cette question-là, effectivement, du pouvoir d'achat qui est important.
Mais c'est aussi parce qu'il est revenu dernièrement.
C'est ça.
Dans l'actualité.
Exactement.
La question du pouvoir d'achat est revenue. On a vu le débat entre les candidats, les Républicains.
Et l'air, effectivement.
Aussi pris un peu de place dans les médias.
Exactement. Donc ils ont emmené en fait d'autres éléments sur la table. Et effectivement, comme vous le disiez à l'instant, pardonne-moi de te voyer.
Là, vous pouvez vous tutoyer, vous connaissez, en tout cas, vous appartenez à la même, je dirais, des élus, exactement.
Mais oui, donc, comme il le disait à l'instant, Amine le disait, le fait d'avoir, en fait, d'autres éléments qui commencent à eux-mêmes rentrer dans la campagne et de l'amener sur des éléments, des champs de réflexion qui sont différents de ceux de Zemmour, et ben, donc, du coup, ça pousse la population à réfléchir aussi sur ces propositions-là, notamment sur l'économie. Aujourd'hui, je crois qu'il a donné une conférence qui s'est peut-être transformée même en meeting, puisqu'il est dans une campagne présidentielle sans le dire, même si on n'est pas encore dans l'officialisation de la campagne. Et aujourd'hui, ces propositions...
Attention, la campagne risque d'être lancée officiellement dans les semaines à venir, les amis.
Mais officiellement, c'est début janvier. Ouais, mais on attend celle de Macron pour dire qu'on y est.
Mais on lancera justement concernant Macron dans les semaines à venir.
Mais en tout
c'est l'histoire de quelques semaines.
Mais en tout cas, sur les questions économiques, c'est là où Éric Zemmour commence un petit peu à rencontrer une difficulté pour continuer à maintenir la pression qu'il mettait sur cette campagne.
Amine ça, et ensuite... Tant qu'il n'est pas déclaré comme candidat, il peut toujours continuer de se comporter comme le polémiste.
Selon vous, est-ce qu'il va se déclarer? Est-ce qu'il va se déclarer? Selon vous, est-ce qu'il va se déclarer?
Il est obligé. Parce que s'il ne le fait pas, ça fait comme si en fait tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour rien, et que c'est une grande bouche.
Peut-être c'était pour son ouvrage.
Mais en fait, si vous voulez, il a
fait un livre, je vous rappelle.
En fait, c'est quand même quelqu'un qui a un hubris assez fort. Rien que pour ça, il ira jusqu'au bout, et ça risque d'être dangereux. Moi, je pensais que la chute dans les sondages, elle viendrait au moment de l'officialisation de la campagne, du démarrage de la campagne officielle.
C'est l'occasion de relancer justement sa candidature. Aujourd'hui, elle s'essouffle. Il est en train de se préparer, notamment parce que, une fois déclaré candidat, il va devoir aller sur d'autres terrains que celui de l'immigration et de l'intégration.
Écoutons le point de vue de celui de Hamid Chriad, justement, qu'on n'a pas entendu.
Avec les sondages, il faut être très, très, très prudent.
Oui.
Parce que vous savez, les sondages, on peut tout dire aux sondages. Les sondages, vous savez, c'est sur 1000 personnes, 2000, 3000, 5000, 10000 au maximum. Donc l'électorat, et en fonction de la situation géographique. Si vous prenez des gens dans le 16e arrondissement ou dans le 17e, elle sera différente.
Oui.
Par exemple, si vous êtes monsieur Adil Farkan, candidat à l'élection présidentielle, et que je fais des sondages pendant une période de 6 mois, pendant une période de 6 mois dans le 19e arrondissement, dans des quartiers populaires à Marseille, etc., il est fort probable que vous fassiez 16, 17, 18, 22%, 23%, etc. Parce que la situation géographique va dépendre effectivement du pourcentage du sondage. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut être très prudent sur le fait d'analyser une situation politique en fonction des sondages. Les sondages ne font pas tout. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'historiquement, les sondages se sont toujours trompés. À toutes les élections,
quand on prend municipal, régional, sénatorial, législatif ou présidentiel.
Oh, presque, non.
Presque tous, à 98%. Oh, vous pouvez faire un... Ben, je vous mets au défi, regardez. Ouais. Faites mais une...
Regardez les sondages, disaient que regardez. Gagnerait en 2014.
Voilà, et pourtant, les sondages existent.
Les sondages sont une photographie à un instant T.
Non, mais
voilà, c'est ça.
Bon, et la dynamique de la campagne qui vient changer la donne.
Sur les élections locales, c'est plus facile pour les sondages, mais sur la présidentielle, c'est...
Présidentielle, évidemment. Et d'autant plus qu'il y a des abstentionnistes, il y a des gens qui sont toujours hésitants, qui ne savent pas quoi voter. Donc, on est toujours dans une situation.
50% du corps électoral n'a pas pris sa décision.
Si je vous demande, vous, monsieur, vous allez voter pour qui ? Vous êtes personne, c'est aujourd'hui, moi-même.
Trop tôt.
Je veux dire, voilà, même si on a des appréciations, un courant de pensée, une idéologie, etc., tout le temps, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que surtout cette campagne présidentielle, avec le Covid, la crise
économique, on est là pour la couvrir.
Attente de juger sur pied.
Voilà, voilà. Donc il est très difficile. Hein. Vous prenez juste vous-même, votre exemple vous-même, vous verrez que c'est difficile. Donc voilà. En ce qui concerne Monsieur Zemmour, moi je crois qu'Éric Zemmour aujourd'hui, c'est une bille médiatique en réalité. Zemmour a été construit par les médias et de plus en plus, il va subir une pression aujourd'hui. Il va sortir du commentateur politique au présidentiable. Oui. Pour l'élection présidentielle, et la pression va augmenter. Mmh. Le fait de passer de commentateur à commenter une actualité a effectivement proposé des solutions. Bon. Et là, effectivement,
vraiment,
la pression.
Vous pensez
bien évidemment, la pression va s'agrandir.
Il a été façonné en quelque sorte par les médias.
Il a été façonné finalement
par les médias, vous pensez vraiment?
C'est d'abord Ruquier qui le dit. Ruquier qui le dit, c'est pas moi. C'est tous les producteurs qui l'ont produit. Ruquier d'ailleurs a dit qu'il avait regretté de lui donner une tribune. Lorsqu'on donne une tribune à personne, on le façonne.
Ouais, mais c'est donc, surtout CNews hein, qui lui a vraiment...
C'est un produit des médias. Mais CNews est venu après. Hein. Il était à RTL,
évidemment.
Etc. Il a commencé au quotidien
Figaro,
Paris. Il a commencé au quotidien avec Philippe Tesson,
etc. Première, etc. Voilà. CNews, c'était vraiment son émission.
Donc on a créé un personnage
Zemmour aujourd'hui. C'est pas très différent de ce qu'il disait il y a 10 ans.
Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a créé un personnage.
Mais attention, ça trouve quand même une écoute au sein d'une population qu'il faut pas non plus négliger.
Évidemment.
Voilà. Mais par contre, moi, je pense que la posture présidentielle chez Zemmour, c'est quelque chose, parce que en gros, c'est quelqu'un qui essaie d'apprendre vite sur le tard. Hein, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il aura du mal à pouvoir porter sur lui. Et on le voit. Comment est-ce qu'il réagit sur les plateaux lorsqu'il est critiqué de face? Même aujourd'hui, au micro de BFM TV, lorsqu'on lui a posé la question de sa chute dans les sondages, il a un peu, s'est un peu moqué des instituts de sondage qui ont fait cet audit national. Faut un peu s'élever un petit peu dans la posture présidentielle, et c'est quelque chose que je pense qu'il n'a pas, et plus il sera confronté à une difficulté, plus son hubris sera touché de plein fouet, et je pense que ça va donner un peu comme pour Mélenchon l'image de quelqu'un qui ne peut pas revêtir la plus haute responsabilité.
Il n'a pas la stature pour endosser l'habit.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Éric Zemmour va subir de plus en plus une pression et va voir la réalité en face. Il va sortir de commentateur politique à celui qui aujourd'hui doit gouverner un État, doit gérer un État. Lorsqu'on est président de la République, on gère un État, comme un chef d'entreprise. Et donc, on compose avec les différents courants de pensée.
La transformation est difficile, parce que je vois qu'il répond, il va exactement sortir des petites phrases.
On ne peut pas prendre parti, on ne peut pas être dans le parti pris constant politique. Et là, effectivement, la réalité sera en face de lui, je dirais, et ça va être difficile pour lui, effectivement, de parler aux Français de façon concrète. Parler de l'immigration, parler de la question économique. Ça, c'est du concret. Parler des gens dans leur frigo, du pouvoir d'achat. Comment financer les retraites? Comment aujourd'hui se développer au sein de la francophonie? Quelles seront les relations avec le Maghreb? Comment développer la francophonie dans le monde arabe?
C'est ce que je disais à l'instant.
Quelles seront les relations avec les pays musulmans? Puisque M. Zemmour est contre l'islam.
Son discours n'a pas changé. Il a été très constant depuis 10 ans. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un écho, mais dans la population française. Et c'est dû au fait que la situation socio-économique a changé. Et aujourd'hui, la réalité, c'est pourquoi ça fait pchit aussi légèrement aujourd'hui, c'est parce qu'il ne propose rien à ce stade et il est uniquement sur les mêmes sujets.
Et moi, je pense effectivement cette part des Français qui est sensible à l'écoute de Zemmour, c'est une part des Français à qui il faut aussi parler et pas laisser en fait des personnes qui font des effets de loupe
sur les situations
dont on peut effectivement parler, mais pas en faire une instrumentalisation politique juste pour gagner. C'est se moquer de cet électorat français qui a besoin de se sentir soutenu aussi dans ses combats au quotidien. Donc arrêtons le populisme inutile.
Allez, tout de suite, merci messieurs. On vous retrouve très bientôt.
Merci.
Amin Saha, maire adjoint de la Courneuve. À très bientôt, au plaisir.
Merci.
Amine Chria, géopolitologue, merci infiniment.
Merci beaucoup.
Et enfin, Rudy Cassi, qui a été tout nos fins, enfin fraîchement nommé. Félicitations, bravo au sein de cette association des élus de France. Merci à vous, Rudy Cassi. À très bientôt aussi. À très vite. Tout de suite, dans une poignée de secondes, dans une poignée de minutes même, c'est le programme de Time Sport avec Bilal Nedman. Les Bleus vont retrouver le parc, le Real veut boucler le dossier Mbappé dès le mois de janvier. Et les Africains et leur sélection, c'est ce qui vous attend comme programme avec Bilal Nedman de 20h à 21h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. On ne lâche rien et à lundi prochain. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.